Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
75% des actifs français se disent heureux au travail. C'est le résultat d'un sondage IFOP, un résultat que l'on retrouve régulièrement dans différentes enquêtes d'opinion et qui tente à tordre le cou à l'idée que l'on se fait que le travail serait d'abord un lieu de souffrance. Voilà justement la conviction de mon invité de ce matin qui affirme « Il ne faut pas considérer le travail comme un lieu d'aliénation mais comme un espace essentiel de développement et de réalisation. » Au cœur du bonheur du travail, il y aurait la question des talents dont personne ne serait privé et qui, quand ils ne sont pas reconnus, sont responsables de bien des couacs et malheurs en entreprise. Alors en cette période de repos forcé pour les uns ou de plus grande pression professionnelle pour les autres, je vous propose de découvrir que nous sommes chacun exceptionnels. Mieux vivre son job, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce jeudi, deuxième jeudi de confinement, de deuxième confinement, on s'y perd. Nous sommes avec vous, Kitri Didier, vous êtes coach et formatrice, bonjour.
Bonjour.
Vous acceptez donc de prendre du temps, on vous en remercie, parce que vous, votre agenda n'est pas moins chargé à l'occasion de ce temps de confinement, si j'ai bien compris. Et donc pour cette émission, après Vite Coupe, Vite Famille, Mieux Vivre Son Job, et on resservira le couvert dans les deux semaines qui viennent pour essayer d'accompagner nos auditeurs à l'occasion de ce temps particulier, puisqu'on est privé aussi d'actualité. Alors on va se plonger donc dans les talents et dans un outil que vous allez nous faire découvrir. Mais je voulais vous faire réagir à cette introduction. Ce sondage IFOP, donc sur le bonheur des Français au travail, c'est donc souvent une idée qu'on se fait qu'on va tous au travail en traînant les pieds le lundi matin et que ça va globalement comme un lundi, comme on dit, et que la réalité est plus contrastée que ça. Est-ce que ça vous surprend ?
Non, ça ne me surprend pas. Moi, je crois que les Français ne sont pas assez heureux au travail, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment le désir de donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur travail. Voilà, entre le désir et la réalité, il peut y avoir un décalage. Mais en tout cas, ce désir montre que c'est possible et que quelque chose est très bon dans ce mouvement.
Alors vous, quand les gens viennent à vous, c'est qu'en général, ils ont des problèmes quand même, un petit peu. Hein. Les coachs et formateurs, ça fait partie presque des... Maintenant, c'est presque les médecins généralistes, on va dire, de la vie d'entreprise. Malgré tout, votre ressenti au regard de votre expérience professionnelle, vous croisez des gens qui sont heureux, qui ont envie d'être heureux?
Alors, je croise des gens qui souffrent, c'est sûr, hein, qui viennent parce qu'ils souffrent. Hein. C'est la souffrance qui les fait se déplacer et désirer être accompagnés. Mais je croise des gens qui ont une bonne frustration aussi, voilà, c'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils ne sont pas faits que pour ça. Donc ils ont une insatisfaction qui est belle, hein, qui les met en mouvement. Donc ils ont le désir d'être heureux au travail et ils croient que c'est possible. Sinon, ils ne viendraient pas se faire coacher.
Je cite un ou deux encore points de ce sondage parce que je trouve que c'est intéressant quand on pose la question aux Français donc de savoir pourquoi qu'est-ce qui les motive dans leur travail. Eh bien ils répondent la liberté, l'autonomie, les conditions de travail, les collègues et le salaire n'est cité qu'à 4% semble-t-il comme première réponse et comme premier critère du bonheur au travail. Alors, vous, votre conviction profonde, en tout cas c'est ce dont vous voulez nous parler ce matin, c'est qu'on aurait tous des talents. Alors, j'ai envie de dire, ça paraît banal comme ça, et vous insistez même, on aurait tous une personnalité, donc on ne viendrait pas qu'avec un CV, mais avec plus que ça, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne est unique, hein, et chaque personne a une aptitude, des aptitudes, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'un seul talent, des aptitudes personnelles et uniques qui lui sont données en vue de quelque chose d'unique, voilà, d'une vocation, d'un chemin unique. Tout ça, c'est très unique, mais c'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile de nommer ses talents, parce que c'est pas les mêmes chez tout le monde. Mais en tout cas, moi, je crois que dans chaque personne, il y a quelque chose de très bon. Et souvent, quand on se regarde soi-même, on voit tout de suite ce qui ne va pas ou en quoi je me sens nulle. Hein, qui ne s'est jamais dit une fois « je suis nulle ». Voilà, le travail de l'accompagnement du coach, ça va être vraiment d'aider à voir ce qui est très bon chez la personne et du coup ce qu'il faut amplifier, qu'il faut accompagner pour que ça grandisse et que ça se mette au service d'un projet, voilà, ou d'un travail.
À vous entendre aussi, Kitry Didier, donc on n'aurait pas des grands ou des petits talents, en fait, on aurait tous des talents, mais qui sont différents.
Voilà, on a tous des talents, tous différents, et on a tous, en fait, un domaine dans lequel on peut exceller.
Tous, sans exception.
Ouais. Et plus justement la personne peut-être apparaît vulnérable, et plus en fait ce talent, s'il se révèle, contribue aux bonnes relations et vraiment aussi à la fécondité d'une société ou d'une.
C'est-à-dire quel lien vous faites entre cette vulnérabilité et c'est quoi? C'est quand on est dans des situations extrêmes et qu'on plus mentir, quelque part, c'est là que se révèle le talent, c'est ça?
Tout à fait, ouais, dans des situations extrêmes où, on est face à sa vulnérabilité, face à sa faiblesse. Et dans la faiblesse, c'est là que je suis fort, n'est-ce pas?
Voilà, sur notre antenne, vous pouvez le dire. Et en plus, vous auriez pu même dire l'auteur, n'est-ce pas, de cette citation. Alors, Kitry Didier, d'où viennent nos talents? Je le disais, donc un CV, c'est... Enfin, à vous entendre, au long de cette émission, comme je vous ai entendu déjà un petit peu, en fait, il faudrait tous qu'on refasse un CV qui parle aussi de notre personnalité et de nos talents. Ce que l'on est dans la vie professionnelle et plus que donc, nos diplômes. Alors d'où viennent ces talents, Kitry Didier?
Donc ces talents, en fait, ils sont reçus, c'est un don, hein, comme dans la parabole des talents. Donc c'est un don que j'ai reçu. C'est des aptitudes relationnelles et humaines particulières. Voilà. Quand on pense talent, on pense à talent artistique ou talents musicaux. En fait, toute personne humaine a reçu des talents relationnels et humains. Le terme technique, c'est même des préférences comportementales naturelles. Donc en fait, on a chacun des préférences comportementales naturelles, des habiletés naturelles et humaines développées sans nous en rendre compte depuis tout petit. Hein, souvent, je donne l'exemple de la main habile. On a tous une main habile. Et en fait, notre main habile, on ne l'a pas choisie. La plupart du temps, à moins d'avoir été contrariée, on ne l'a pas choisi, et à force de l'utiliser, à force de saisir le couteau, la fourchette avec, de jouer avec, eh bien cette main habile va devenir douée, et va devenir performante même, excellente. Et voilà, un talent c'est ça, c'est quelque chose de reçu naturellement, et qu'à force de pratiquer, eh bien nous permet d'arriver à un niveau d'excellence dans un domaine particulier.
Alors vous avez cette phrase aussi, le talent est dynamique s'il est au service, il grandit, s'il est tapis, il meurt. C'est fort quand même comme...
On peut mourir à
ses talents quelque part.
On peut mourir à ses talents dans le sens où... donc le talent, c'est... Il y a une perspective vraiment dynamique, c'est-à-dire que je reçois un talent et je le donne. En faisant ça, en fait, je deviens ce que je suis vraiment. Hein. Je grandis. Et donc la perspective dynamique, ça veut dire que je reçois un talent pour le donner à quelqu'un ou à quelque chose. Donc c'est ma contribution par mes talents qui va faire que le talent est talent.
Alors c'est le moment peut-être de donner une illustration, même si après j'aimerais bien qu'on insiste au moins dans cette première partie sur le rôle du leader et du manager. Il y en a certainement quelques-uns qui nous écoutent, ou en tout cas des amis d'amis ou des épouses. Qu'est-ce que vous pourriez prendre comme exemple qui illustre ces talents avant qu'on se plonge dans un fameux test aussi qui est l'un de vos outils?
Alors peut-être justement avant de plonger dans le professionnel, un exemple très ordinaire, c'est un exemple de la vie de famille. Imaginons qu'en famille, grands-parents, petits-enfants, grands-parents-enfants ou même entre frères et sœurs, vous fassiez un atelier de cuisine. Et en fait, dans cette cuisine où vous faites cet atelier à plusieurs, eh bien certains d'entre vous vont être tout de suite aux commandes, tout de suite vont vouloir mener l'atelier, c'est-à-dire... prendre des décisions, dire « toi tu fais ça, toi tu prends ça », voilà. D'autres vont prendre la recette, la lire de façon très méticuleuse et d'une façon très fidèle et fiable, vont rassembler les ingrédients, peser chaque ingrédient, préparer les ustensiles. D'autres vont chercher à modifier la recette pour qu'elle soit encore plus belle, que le résultat soit encore plus beau et mieux présenté. Et puis d'autres, enfin, la recette, ils s'en fichent. Le résultat, le gâteau, voilà, le plat, ils n'en ont rien à carrer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être ensemble, passer un bon moment. Et du coup, ils vont passer de l'un à l'autre en vérifiant si ça se passe bien, si l'un ou l'autre a besoin d'aide. Voilà. Et dans cet atelier de cuisine, vont se révéler des talents naturels, des talents relationnels très différents.
C'est quoi les critères d'un talent? C'est quelque chose que l'on fait, on va dire, facilement, habituellement, qui impacte les autres positivement, quoi. Quels sont les quelques critères qu'il faut avoir en tête?
Alors, les critères d'un talent, c'est quelque chose que l'on fait bien, naturellement, facilement, et quand on le donne, eh bien, on a de la joie. Voilà.
Et les autres
Donc,
aussi?
et les autres, alors,
Pas
pas
forcément.
forcément, parce que
Parce
voilà,
qu'il y
le
a des talents qui
résultat,
font mal, c'est ça?
parce que le résultat, forcément, le résultat, c'est pas, ce n'est pas que nous, hein. En revanche, le don, c'est nous, hein.
Alors, quid du leader? Si on vous fait intervenir, c'est qu'il y a bien des situations professionnelles ou des organisations qui patinent. Hein. Alors après, on va dire, c'est normal dans la vie d'entreprise. On a toujours besoin on va dire, de regards tiers et puis d'expertise extérieure. Néanmoins, vous insistez sur le rôle du leader. Le leader réussit en faisant réussir les autres. Il grandit en faisant grandir les autres. C'est toujours ce qui fait rêver tout à chacun. Parfois, c'est plus difficile. En quoi le leader a un rôle bien singulier à propos de ses talents?
Donc le leader, en fait, il a un rôle singulier parce que, en effet, pour moi, sa mission, c'est de faire grandir les autres à travers un objectif, voilà, peut-être de résultat, de performance ou un objectif très précis. Mais en tout cas, il va devoir faire grandir les autres. Donc son défi, c'est de découvrir les talents de ses collaborateurs. Voilà, de les découvrir pour les nommer, pour les reconnaître. Et ensuite, pour aider chacun à encore mieux les mettre à contribution. Voilà, je crois que le leader, il a une clé, c'est la confiance. Hein. Un leader qui fait confiance à ses collaborateurs et qui arrive en plus à leur confier exactement ce dans quoi ils vont être bons, va faire grandir ses collaborateurs. Et en faisant ça, eh bien, il grandit lui-même parce qu'il va focaliser son attention sur ce qu'il y a de meilleur chez l'autre pour que l'autre donne le meilleur de lui-même.
À ce titre, vous insistez aussi, vous dites un regard admiratif fait se développer, un regard réducteur fait s'inhiber. Savoir reconnaître les talents, c'est pouvoir reconnaître l'autre dans ce qu'il a de meilleur et avec tout son potentiel. Et en plus, à vous entendre, c'est plus qu'une reconnaissance professionnelle quelque part. C'est là où la vie d'entreprise est souvent, enfin, soit le lieu de bonheur ou de douleur. C'est que quoi qu'on veuille, quel que soit le leader que l'on est, on vient avec plus que des compétences en fait.
Ouais, c'est vraiment dans la relation, hein. Avant d'être dans la relation professionnelle, c'est dans la relation humaine que ces signes de reconnaissance se font, hein, et que vraiment la personne va désirer grandir dans le regard du leader. Hein. Il y a quelque chose qu'on connaît mal qui s'appelle l'effet Pygmalion. Hein, Pygmalion, c'est un personnage de la mythologie qui tombe amoureux de la statue qu'il a sculptée. Et en fait, sa statue prend vie. C'est-à-dire qu'à force de la regarder avec un regard d'amour, eh bien, cette statue prend vie. Et l'effet Pygmalion, c'est cette capacité de tout leader, de tout manager, de regarder l'autre avec tout son potentiel. Et quand on fait cela, quand on porte ce regard-là sur l'autre, eh bien, il va vouloir habiter ce potentiel, habiter tout ce regard, grandir dans ce regard. Voilà, donc ça l'aide, rien que de poser ce regard-là sur son collaborateur, va l'aider à se développer.
Avant de faire une première pause, est-ce que vous pouvez nous présenter l'outil que l'on va donc détailler dans la deuxième partie? Vous êtes certifié pour cet outil, il a un nom TLP Navigator ou alors certifié Profil Talent. D'où vient-il? Des outils, il y en a beaucoup, certains qui sont de plus en plus connus dans la vie d'entreprise. Je pense entre autres au MBTI, hein, qui est on va dire, un peu la star. Ce profil, vous le sortez de votre chapeau, quelle crédibilité a-t-il?
Alors, ce profil, c'est un profil qui s'appelle le profil talent. Il a été fait par TLP Navigator. Donc, c'est une entreprise qui a été fondée par Olivier Wheeler. C'est un Suisse. Ce profil, il vient du MBTI. En fait, voilà, il sort pas du chapeau. Il est vraiment issu du MBTI. Donc, c'est un profil professionnel pour
Alors que le MBTI est plus un profil de personnalité,
de
non?
personnalité. Enfin, qui a un usage très professionnel. Hein. Le MBTI, on l'utilise beaucoup en entreprise, beaucoup en coaching professionnel. Voilà, donc ce profil, il s'appuie sur les mêmes outils, c'est-à-dire en fait des types psychologiques qui ont été décrits par Jung, hein. C'est un psychiatre suisse du XXe siècle. Donc c'est des types psychologiques qui s'appuient sur des qualités plutôt que sur des quantités comme on l'a fait pendant des années hein, des mesures chiffrées de telle ou telle compétence.
Et c'est un outil aujourd'hui qui est largement, on va dire, reconnu, utilisé, ou alors vous êtes une minorité encore à le...
Alors le profil talent, il est vraiment en grande progression de reconnaissance, il est fiable et fidèle, hein. il a une grande fidélité. Vous savez, les profils, on va chercher la stabilité, la fidélité, est-ce que voilà, le profil est fiable. Donc il est fiable, dans la base, il y a, je ne me souviens plus du nombre, mais un très grand nombre maintenant de profils. Dans l'église, on l'utilise beaucoup. Parce que c'est un profil qui s'inscrit dans une vision de l'homme qui est vraiment belle. C'est-à-dire que selon les profils, la vision de l'homme derrière est très différente. Ce profil-là, la vision de l'homme qui est donnée derrière, c'est que l'homme est fait pour servir, au sens très beau et noble du terme, hein, pour servir les autres, pour servir la société. Donc il reçoit des choses, des talents, hein, il reçoit des talents pour les donner. C'est cette vision de l'homme-là.
Ben on va faire une première pause et puis on va se plonger dedans avec vous dans ce test talent qui va nous aider à découvrir justement peut-être ou entrevoir nos domaines d'excellence à chacun et sans exception.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Mieux vivre son job, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce deuxième jeudi de confinement. On essaie de prendre soin de votre vie professionnelle et nous sommes avec vous, Kitry Didier, vous êtes coach et formatrice. et vous nous aidez donc à découvrir nos talents. Et donc un test, alors je ne sais pas si c'est comme ça que, si c'est le terme exact que vous utilisez, parce que test ça peut paraître un peu réducteur, qui est donc ce profil talent que l'on va découvrir davantage. Alors comment passe-t-on ce test qui est tridédié déjà, j'imagine que c'est pas, on ne le trouve pas sur internet, qu'il faut se faire accompagner, c'est déjà un préalable.
Tout à fait. En fait, ce test, on le passe auprès de coachs certifiés ou d'accompagnateurs certifiés. C'est un test qui a la forme très simple d'un questionnaire en ligne. Il y a une cinquantaine de questions. Les questions, en fait, sont des questions qui viennent chercher des comportements habituels et naturels. Donc, c'est des questions de situations professionnelles très habituelles, ordinaires. Et on y répond le plus spontanément possible, hein. Voilà, parce que c'est vraiment des questions très simples et basiques.
Alors, il y a comme un propos introductif avant qu'on s'y plonge, justement, c'est que tout ça est accompagné donc d'un travail de relecture, et alors vous appelez ça un chemin d'excellence, pourquoi ?
Alors, ce chemin d'excellence, en fait, c'est arriver à retrouver le chemin jusqu'à nommer les talents. Et voilà, c'est difficile de se dire en quoi je suis bon, dans quel domaine je suis bon. Et en fait, pour y arriver, pour retrouver ce dans quoi je suis bon, on va passer par la joie. C'est-à-dire qu'on va, on va aider la personne à se souvenir dans ses expériences professionnelles passées tous les moments où elle a reçu de la joie, où elle a vécu des moments de joie profonde, de joie. Et par cette joie, on va retrouver dans quoi elle était bonne. Hein, dans ces moments-là, et dans ce moment-là où elle était bonne, mais qu'est-ce qu'elle pratiquait ? Qu'est-ce qu'elle était en train de mettre en œuvre ? Et du coup, dans ce qu'elle était en train de mettre en œuvre, quels étaient les talents ?
Alors vous dites donc que c'est le plaisir, la confiance, la performance et la quantité de pratique aussi. Tout ça, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que, alors si on fait le chemin inverse, c'est que quand on a un talent, plus on le pratique, plus on devient bon, on s'en rend pas forcément compte, mais on prend confiance en soi, on gagne en confiance en soi, et surtout, on reçoit beaucoup de joie. Voilà, c'est ça le chemin d'excellence.
Ça fait rêver, dites donc. Alors, on va le regarder d'un peu plus près. Donc, quand on a passé ce test talent, quand on s'est fait accompagner, on découvre des grands profils. Je vais les nommer, on n'aura peut-être pas tous le temps de les détailler, mais il y a à l'intérieur de ça quelque part quatre grands blocs, hein, si j'ai bien compris. On peut peut-être se découvrir mobilisateur, stratège, contrôleur, protecteur, investigateur, concepteur. Si vous deviez nous en présenter l'un ou l'autre, qui est tridédié, à quoi ça ressemble ?
Alors peut-être, si je commence, je peux peut-être commencer par celui qu'on repère assez vite dans une équipe. C'est le talent de créateur, hein, ou d'innovateur. Donc voilà, c'est quelqu'un qu'on va repérer assez vite parce que quand le coach va arriver et proposer un accompagnement, lui tout de suite il va sortir du cadre, il va tout de suite vouloir ouvrir des portes, donc ne pas correspondre à ce qui est proposé, mais tout de suite proposer encore mieux, encore plus vite, encore plus loin, voilà. Et là c'est vraiment ce talent d'innovateur, c'est-à-dire cette capacité de la personne à sortir de ce qui est proposé pour imaginer toujours plus grand, toujours plus utile, toujours plus performant.
Déjà, c'est un changement de regard, parce qu'on peut se dire qu'il est casse-pied, et dans le fond, on essaye d'abord d'y voir un talent.
Tout à fait, tout à fait. On peut tout de suite se dire, cette personne est casse-pied, en effet, elle n'est pas très docile. Et en fait, voilà, cet esprit libre, derrière, il y a un talent.
Alors, si j'ai bien compris, derrière chaque talent, il y a des points forts, des points faibles, des leviers de motivation, des styles de communication, une manière de faire adhérer les autres. Si vous deviez détailler un peu plus en gardant cet exemple, les points forts et les points faibles, par exemple, celui qu'on appelle aussi le concepteur, et puis ses motivations, son style de communication, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, les points forts de ce concepteur, en fait, c'est qu'il va avoir beaucoup de nombreuses idées nouvelles. Voilà. Donc, il est capable d'une très grande créativité et il est capable de générer beaucoup d'idées nouvelles. Et dans une logique de projet, par exemple, c'est quelqu'un qui va être très bon. Ou dans un brainstorming, il va être vraiment excellent parce qu'il va être capable de générer énormément d'idées nouvelles. Sa difficulté, c'est ça va être de choisir une idée, de se positionner sur une idée. Hein, parce qu'il a 10 000 visions, mais il n'en tient pas une jusqu'au bout. Lui, ce qui l'intéresse, ce qui le motive,
c'est de rêver.
C'est de rêver, c'est la nouveauté, c'est de faire rêver. Voilà, c'est vraiment un intuitif, c'est un passionné. Il est tourné vers le futur. Hein. On le voit parfois très jeune, ça. C'est-à-dire que, par exemple, chez des enfants ou des jeunes, moi j'accompagne des grands ados, hein, qui ont toujours un coup d'avance. Ils voient toujours ce qui va se passer après. Donc vraiment, c'est des personnes tournées vers le futur. Donc sa difficulté, ça va être de choisir et d'aller jusqu'au bout d'au moins une chose.
Voilà. Alors, les leviers de motivation, vous les avez un peu cités. Les besoins fondamentaux, là, en l'occurrence, ça donne quoi ?
C'est alors,
quoi
son besoin ? Son besoin fondamental, c'est d'être félicité. Hein, d'être félicité parce que c'est un esprit génial. Hein, c'est l'esprit génial, celui qui a ce talent-là. Hein. Il y a une forme de génie. Et derrière ça, il a besoin d'être félicité pour le génie de ses idées.
C'est-à-dire, alors, félicité au sens... Il a besoin de reconnaissance.
Il a besoin de reconnaissance. Donc, ce n'est pas quelque chose, enfin c'est parfois quelque chose de socialement difficile à accepter, hein, d'avoir besoin d'être félicité, mais en tout cas cette personne-là, plus que les autres, va avoir besoin qu'on l'encourage et qu'on la reconnaisse sur ses idées innovantes.
Les modes de communication, là, en l'occurrence, quels sont-ils ?
Alors les modes de communication, ça va être vraiment par l'enthousiasme, hein, et les idées et le futur, la projection dans le futur, qu'on va réussir à communiquer avec cette personne. Si on est dans un projet, par exemple, où on parle tout le temps de faire, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, ici et maintenant, cette personne-là, en fait, on ne va pas réussir à communiquer avec elle parce qu'elle, elle est toujours dans demain, après, voilà.
Demain, après-demain. On va prendre un autre exemple. Je vous suggère le profil, alors je ne le retrouve plus, c'est le profil un petit peu protecteur.
Oui, c'est la personne qui est vraiment dans les relations. Donc ça, c'est une personne...
Protecteur, en effet.
Protecteur.
Donc, à quoi ça ressemble, déjà ?
Donc, c'est une personne... Ben, dans mon atelier de cuisine, tout à l'heure, c'est vraiment la personne... Le gâteau, elle s'en fiche. En fait, ce qui l'intéresse, c'est d'être avec les autres. Hein, et c'est la bonne harmonie, la bonne atmosphère, la bonne ambiance qui va se dérouler dans cet atelier de cuisine. Donc, son talent, c'est de comprendre l'autre, d'arriver à entrer dans sa perspective et du coup, de le soutenir, de l'aider, de l'assister. Donc ce sont des personnes qui sont très compréhensives et souvent on les repère parce qu'on les trouve gentilles. Ce sont des personnes gentilles. Voilà, quand je les ai en coaching, elles me disent parfois « oui, je suis vraiment trop gentille, ces personnes-là ». Bon, ben derrière, c'est sûr, 9 fois sur 10, il y a le talent du protecteur.
Alors, point fort, point faible, ça se devine déjà un petit peu, mais si vous deviez aussi préciser à nouveau.
Voilà, donc le point fort, c'est vraiment d'être très compréhensif et de mettre de l'huile dans les relations et de mettre une bonne ambiance. Dans une équipe, vraiment, ces personnes-là, elles sont clés parce que, surtout dans des situations très stressantes, elles vont toujours arriver à mettre de l'huile dans les rouages et à faire que les relations soient les meilleures possibles. Le danger de ces personnes, c'est de se fondre. De disparaître, en fait, c'est-à-dire de renoncer à leur personnalité et d'être tellement dans la compréhension de l'autre qu'elles disparaissent et qu'elles ne disent plus non. Voilà.
Le besoin fondamental, quel est-il?
Alors, le besoin, c'est vraiment l'appartenance. Donc, ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de se sentir appartenir à un groupe, une équipe ou un lien aussi intime, hein, entre un lien d'amitié entre deux personnes. Voilà, ce sont des personnes qui ont confiance facilement et elles ont besoin d'appartenance.
Les styles de communication, là, en l'occurrence, c'est quoi ? C'est quelqu'un surtout qui écoute beaucoup ?
Alors, c'est quelqu'un qui va être dans l'écoute. C'est quelqu'un qui va être sensible à tout ce qui est construction de l'unité. Donc, qui va être sensible, par exemple, chez un manager qui a un collaborateur comme ça. Ce collaborateur va être sensible à tous les efforts du manager pour vraiment faire que l'équipe soit unie. Qu'elles s'entendent bien, quitte à ce que ça passe par des moments de convivialité, un repas, un bon café, un petit apéro. Voilà, la personne qui a ce talent de protecteur va beaucoup aimer la convivialité.
Catherine Didier, est-ce que vous pouvez prendre à ce stade de l'émission à nouveau un exemple tiré de votre chapeau, de votre expérience professionnelle pour illustrer ce test ou cet outil que vous nous présentez ?
Alors peut-être je peux prendre un exemple qui va peut-être montrer un autre talent. L'exemple d'une personne que j'ai reçue en coaching, qui était une personne dans le même travail depuis presque une trentaine d'années, donc vraiment en fin de carrière, et vraiment une personne, elle était comptable, une personne extrêmement fidèle, extrêmement fiable, et qui avait de grosses difficultés avec son chef. grosse difficulté de relation. Et cette personne, donc on a fait le profil talent, elle a passé le profil talent, je l'ai accompagnée dans la lecture et puis dans la validation, ça on en a pas parlé, mais voilà, c'est important que la personne aussi se reconnaisse dans ce qu'elle découvre. Et elle a découvert à quel point en fait elle avait ce talent de vérificateur, donc c'est-à-dire de fiabilité, c'est-à-dire d'être capable, quand elle a un cahier des charges, de faire les choses de façon très fidèle. Et elle a pu aller voir son chef. En fait, son chef, il attendait d'elle des initiatives.
Le profil, hein, ça, comment ça s'appelle dans le profil talent exactement? Donc c'est le contrôleur, celui-là?
Voilà, c'est le contrôleur. D'accord. C'est le contrôleur. Donc cette.
Et son chef lui demandait plutôt d'être concepteur.
D'être à l'initiative, donc plutôt dans l'innovation, donc d'être donc concepteur de nouvelles choses. Elle ne l'était absolument pas. Donc je l'ai aidée en fait à mieux communiquer avec son chef. À dire simplement, voilà, ce dans quoi je suis à l'aise, hein, c'est plutôt moi de correspondre à ce qui est demandé. Et c'est ça qui, moi, c'est ça qui fait ma joie, c'est que quand je fais mon travail, il est bien fait, il est fidèle. Et ce que vous me demandez, ben, j'y arriverai pas. Donc c'est vrai que c'est une personne qui... Donc ce qui s'est passé, c'est que la relation s'est un peu apaisée parce qu'elle a réussi vraiment à prendre confiance en elle et à se présenter de cette façon très belle. Et en partant d'elle, voilà, sans accuser son chef de tout un tas de jugements.
Je vous en propose un petit dernier pour la route, allais-je dire. Prenons l'exemple de celui qui est censé être devant, justement, qui a plutôt un profil d'entrepreneur, donc mobilisateur ou stratège. Là, on parle justement du leader. Il a le droit aussi d'apprendre à mieux se connaître. Ça ressemble à quoi quand il se découvre dans la glace et qu'en l'occurrence, il reconnaît qu'il est à la bonne place?
Alors, quand il se découvre dans la glace et qu'il reconnaît qu'il est à la bonne place, en général, il est vraiment très rassuré, hein, parce que ce sont des personnes qui sont des combattants, hein, des battants, des combattants, très combatifs, et donc ils dépensent énormément d'énergie pour arriver à un résultat, pour fédérer des personnes. Voilà. Le risque, c'est que souvent, ils finissent tout seuls parce qu'ils vont tellement vite et tellement loin qu'ils finissent tout seuls. Donc, en général, quand ils viennent en coaching, c'est vraiment qu'ils éprouvent ce sentiment de très grande solitude. Ils ont l'impression d'être incompris.
Ce qui est le propre du chef aussi, non?
Ce qui est le propre du chef, tout à fait. Donc quand on passe le profil talent et qu'on est un leader dans ce sens-là, parce qu'on est tous des leaders, hein, ça c'est un autre sujet, mais on a tous une forme de leadership personnel. En tout cas, quand on est ce leader-là au sens commun, eh bien on découvre son talent et il y a comme un « c'est vrai, je suis comme ça, c'est génial ». Il y a un grand sentiment de soulagement, d'être rassuré, parce que le leader, il aime être leader. Donc quand on lui dit « mais t'es un leader », forcément, il est rassuré.
Parce que les autres profils, on peut ne pas aimer
Alors, oui, mais peut-être pas autant que le leader. Le leader, vraiment, il est hyper content qu'on lui dise qu'il est leader.
Après, c'est valorisant aussi.
Valorisant, et puis parce qu'il a pris des responsabilités, il prend des risques. Le leader, c'est vraiment celui qui prend des risques tout le temps, tout le temps. Hein, il a un sens du risque qui est impressionnant. Il n'a pas peur. Il va jusqu'au bout, il va loin, voilà, il tient sa vision, il a beaucoup de convictions et il les tient très, très loin. Donc quand on lui dit qu'il est leader, c'est vraiment pour lui un grand soulagement. Et ensuite, donc, le coaching va l'aider en fait, justement à embarquer beaucoup plus les autres.
Les forces, vous dites, donc, c'est s'entendre sur une vision, une direction commune, orienter les forces, s'entendre sur les objectifs, le système d'organisation, fixer un plan rationnel et efficient. Déjà derrière tout ça, on entend qu'il faut en mettre, j'allais dire, de l'énergie ou de la niaque, hein. Les défauts les limites de ce mobilisateur ou de ce stratège qu'il doit apprendre à découvrir, c'est quoi?
Donc les limites, c'est quand il a vraiment une idée en tête, il va jusqu'au bout, donc il peut oublier tout un autre horizon, tout un autre panel de possibilités, hein. Il oublie aussi la relation, donc souvent c'est quelqu'un qui va faire passer la relation après le résultat, hein. Il est vraiment motivé par le résultat, la réalisation d'objectifs concrets.
La réalisation de projets.
Voilà. Et donc, il va faire passer les personnes, souvent sans s'en rendre compte en plus, hein, vraiment après, et ça fait des dégâts. Hein. Celui qui a ce tempérament de leader peut faire des gros dégâts dans son équipe.
Les besoins fondamentaux et les styles de communication, c'est...
Donc, son besoin, c'est le besoin de décider, besoin d'aboutir à des résultats. Et donc, pour l'aider, on va lui donner des objectifs. Pour communiquer avec lui, on va lui donner des objectifs. Hein, voilà, c'est ce qui va le motiver, c'est d'avoir des objectifs concrets, réalisables, atteignables, où il va pouvoir mobiliser toute son énergie pour y arriver.
Et les styles de communication?
Alors, le style de com, eh bien, c'est...
Un peu boum-boum, comme on dit.
En fait, c'est quelqu'un de résolu et de concret. Donc, en fait, il va falloir parler à cette personne-là dans le concret. Hein. Contrairement à l'innovateur qui était plutôt dans les idées. Hein. Cette personne-là, elle est plutôt concrète. Elle a besoin d'être tournée vers le présent.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver. On va essayer de voir comment tout ça se marie dans la vie d'entreprise parce qu'une fois qu'on apprend à se connaître, eh ben, derrière, il faut l'assumer. Il faut parfois faire des choix à vous entendre, des choix qui peuvent être difficiles, tant personnels que quand on est un leader. Et puis on essaiera de voir comment on peut marier cela parce qu'il y a aussi des pairs qui fonctionnent particulièrement bien, bien qu'on ait besoin de tous dans une vie d'entreprise.
Thank you. présence à Aspé 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Mieux vivre son job, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour nous accompagner dans notre vie professionnelle. Que l'on soit, on va dire, en cale sèche en ce moment ou alors débordé, il est toujours bon d'apprendre à mieux se connaître pour mieux travailler, à se connaître seul ou en équipe. Et nous sommes avec vous pour ça, Kitry Didier. Vous êtes coach et formatrice et on parle surtout d'un profil sur lequel vous êtes certifié, le profil talent. On a donc compris que le bonheur au travail était un horizon, un horizon qu'il fallait viser, qu'il n'y avait pas de mal à vouloir être heureux au travail, voire même que c'était normalement le lieu d'un plein épanouissement quand on est ajusté et en fonction de ses talents. Alors une fois qu'on a fait ce profil, qu'on a été accompagné, qu'on s'est découvert, à vous entendre, après il faut choisir entre ce que l'on aime faire et ce que l'on sait faire. Il faut arriver à se marier et puis à marier les deux. Après il faut arriver à tracer une ligne vertueuse. Alors l'heure des choix, à quoi ça ressemble?
L'heure des choix, ça ressemble à... Ça part souvent de frustration, hein. C'est-à-dire que vraiment je me sens pas bien dans mon travail. Et ça, même si je passe le profil talent, voilà, ça reste encore, hein. Donc j'ai le profil talent, je reconnais que j'ai des talents, mais je suis pas bien dans mon travail. Et du coup, il va se profiler plusieurs options. Peut-être d'abord, ça va être de me former, parce qu'en fait, j'ai ce talent, mais je ne l'ai pas encore assez expérimenté. Et je ne sais pas faire.
Hein. Alors est-ce que vous pouvez prendre un exemple?
Par exemple, j'ai eu un professeur en coaching, donc quand il enseignait, il avait vraiment beaucoup de joie à transmettre. Simplement, il était pris par le stress, par des détails techniques, en fait, de méthodologie, hein, pour donner son cours. Donc, lui, typiquement, la solution, ça a été comment je peux me former pour apprendre, tout simplement, à structurer mon cours, à le donner de façon méthodologique pour que je sois rassurée moi-même, voilà, et que je puisse vraiment être dans mon talent qui est d'enseigner.
Alors, se former, après, sinon, il y a...
Se former, ça peut être aussi renoncer, hein, quand on n'aime pas faire, qu'on ne sait pas faire. On est dans un travail qu'on n'aime pas faire, et en plus, on ne sait pas bien le faire. Ça nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, et le résultat, à la fin... est médiocre.
On peut être à contre-emploi dans son travail.
On peut être vraiment à contre-emploi. Hein. Alors ça, je le vois. Alors quelque chose que je repère, c'est par exemple des personnes qui sont dans des postes administratifs. Hein. Je le vois par exemple chez des mères de famille qui ont quitté pendant plusieurs années la vie professionnelle, qui reviennent dans des postes et elles sont cantonnées à des postes administratifs au départ, alors qu'elles ont de vrais talents sur d'autres domaines. Donc là, elles vont faire des choses, elles savent le faire au minimum, mais ça leur demande énormément d'énergie, énormément d'efforts. Donc elles n'aiment pas le faire, elles le font par nécessité, parce qu'il faut passer par là pour trouver plus grand ou plus intéressant. Et puis en plus, quand elles travaillent, elles ont l'impression de mal faire. Hein. Donc ça, c'est deux impressions, je n'aime pas faire et j'ai l'impression de mal faire parce qu'au fond, je ne sais pas bien le faire. C'est l'invitation à renoncer et du coup à me réorienter, enfin vraiment à choisir une autre voie et à me faire accompagner pour ça.
Donc on se forme, on renonce et c'est là en fait, c'est les deux rendez-vous entre guillemets de l'heure des choix.
C'est les deux rendez-vous, on peut amplifier quand on aime faire et qu'on sait faire. On peut prendre encore plus confiance en soi. Hein. C'est-à-dire par exemple, imaginons que vous désiriez être coach. Donc moi j'ai accompagné quelqu'un qui voulait être coach, donc c'était étonnant d'ailleurs, c'était génial, et qui se rend compte en fait qu'elle accompagne, quand elle accompagne elle aime faire, elle sait le faire, mais elle a un problème de confiance en elle lié à sa légitimité, donc le profil talent va vraiment la rassurer, va l'embarquer et elle va se donner encore plus à fond, donc vraiment investir ce champ à fond et même découvrir ce pourquoi elle est profondément faite, hein. Ça, c'est génial. C'est-à-dire vraiment à découvrir ce pourquoi je suis profondément fait. Ça, c'est le top du top.
Alors, ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, donc on se forme, on travaille éventuellement à se réorienter, et puis petit à petit, donc on se réalise. C'est un cercle vertueux à vous entendre. Kitri, Didier, de tout cela, comment ça se marie en équipe? Est-ce que ça vous arrive de coacher des organisations, de les aider à découvrir ensemble leur profil talent?
Alors oui, ça arrive souvent puisqu'on fait du coaching d'équipe quand on est coach. Enfin, en tout cas, dans mon métier, on fait du coaching d'équipe. Donc, la demande des équipes, c'est pas forcément au départ de découvrir ses talents. Hein. Souvent, c'est un conflit, une difficulté en équipe. Ou alors, on veut vraiment développer les collaborateurs pour aller plus loin dans une logique de projet. En tout cas, le profil talent, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque tout de suite comme une découverte sur quelle place chaque collaborateur peut prendre de façon encore plus intentionnelle et résolue dans l'équipe.
Alors, prenez un exemple d'un projet type, on va dire.
Alors, je vais donner un exemple d'un projet type. Par exemple, dans une équipe que j'ai...
Où le leader, le concepteur et le protecteur
Ah oui, d'accord. Alors, un exemple comme
place.
Ça. Alors, un exemple comme ça, par exemple, je suis une entreprise qui fabrique des produits quelconques et nous avons l'intention de développer un nouveau produit. Dans cette phase de développement, en fait, où il va falloir imaginer toutes sortes de produits possibles, la personne qui est innovatrice, qui a des talents de conception, d'invention, va être à la bonne place, et lui donner toute sa place dans cette période-là va faire que l'équipe va aller très loin dans toutes les nouvelles idées. Ensuite, une fois qu'on a imaginé 10 000 produits, il faut choisir. Hein. Et là, l'innovateur, il n'est plus très bon. Vous vous souvenez, pour choisir, pour se décider sur un produit, il ne va plus être très bon. Dans une petite équipe, voilà, s'il faut choisir un projet parmi 10 000, eh bien, il va falloir s'appuyer sur les talents du leader, du mobilisateur, du stratège, qui lui est capable de choisir. Il a une idée, il va à fond. Si on s'est appuyé trop vite sur lui, on va peut-être perdre des opportunités qu'on n'avait pas repérées. Hein. Il faut vraiment s'appuyer avant cela sur celui qui innove. Après, une fois qu'on a fait ce choix de décider, voilà, c'est ce projet-là qu'on choisit, il va falloir le mettre en œuvre. Et pour toute la mise en œuvre, en fait, il y a des talents dont on n'a pas parlé, c'est les talents pas trop, d'activateurs, de contrôleurs, voilà, ceux qui vont valider les opérations, qui vont mettre en œuvre toute la machine pour produire. Hein. Et là, ces personnes-là, si à ce moment-là, on leur dit « Ah non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'est comme ça », ça va être très compliqué. Voilà, eux, ils sont vraiment, une fois que la décision est prise, on y va et on produit. Et dans cette équipe, eh bien, il va falloir des personnes aussi qui vont réguler tout le process de production et qui vont être là pour mettre de l'huile dans les rouages. Et vous l'avez compris, on va s'appuyer sur ces personnes qui sont plutôt dans la relation, donc dans la facilitation, dans l'animation du projet.
Est-ce qu'il y a des pairs qui marchent particulièrement? Est-ce que, en l'occurrence, par exemple, un leader doit apprendre à fonctionner avec un facilitateur et un protecteur au risque justement de ne pas être assez attentif aux personnes? Est-ce qu'il y a des binômes qu'il faut avoir en tête?
Alors, il y a des binômes qui ne fonctionnent pas naturellement. Hein. Le leader et le protecteur, c'est celui qui va très loin, qui va très vite tout seul. Et ben forcément, il ne s'entend pas forcément facilement avec celui qui est dans la relation. Donc, ça fait de la casse. Et c'est en voyant cette casse qu'on peut se dire, bon, en fait, il y a deux talents très complémentaires. On va avoir besoin des deux pour aller loin tous ensemble et pas loin tout seul. Voilà, c'est une paire en fait qui est très complémentaire. Quand on comprend ça en équipe, voilà, quand par exemple on fait des réunions d'équipe toutes les semaines et il y en a un vraiment qui m'agace parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout dans le projet, il est tout le temps à vérifier si tout le monde va bien, si tout le monde se sent bien, voilà. En fait, c'est quelqu'un sur qui je vais devoir m'appuyer, surtout dans les moments de crise, dans les moments de stress, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a le talent de mettre de la communion, de l'harmonie dans les relations.
Y a une phrase que vous aimez bien qui s'appelle « Là où les talents croisent les besoins du monde, réside la vocation ». C'est une phrase d'Aristote, je vais la reciter. « Là où les talents croisent les besoins du monde, réside la vocation ». On peut parfois, tous ces outils, les regarder ou les prendre un peu de haut et puis se dire « Bon, moi, j'en ai pas besoin, c'est la mode du moment que d'avoir besoin pour tout, d'être accompagné ». Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il se joue là quelque chose de profond?
Je crois qu'il se joue quelque chose de profond parce que la motivation, en fait, elle est vraiment intérieure. Hein. Pour moi, en tout cas, elle est vraiment intérieure. Et du coup, la vocation, savoir ce pourquoi je suis fait, ce à quoi je suis appelé, ça demande beaucoup d'intériorité, ça demande de réfléchir voilà, à l'intérieur, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me fait bouger. Et en fait, le talent, c'est dynamique. Donc le talent, ça va donner une impulsion et un début d'orientation. Hein, donc parfois, on ne sait pas ce pourquoi on est fait, mais par contre, le talent va nous donner une piste, une petite piste qu'on peut filer, hein, qu'on peut suivre tranquillement pour découvrir sa vocation.
Le pape François a une expression souvent, qu'il utilise de temps à autre, il dit « il faut se dire « je suis une mission » ou « tu es une mission ». Alors si on prend ça, on va dire en dehors de sa considération, on va dire proprement chrétienne et pastorale, est-ce qu'on pourrait dire la même chose pour la vie d'entreprise ?
Oui, probablement. Je crois que dans la vie de l'entreprise, il y a de nombreux défis. À chaque défi correspond des talents nécessaires. Hein. Donc il y a comme une adéquation à trouver entre tous ces talents qui sont présents, qui sont là, toutes ces personnes qui sont au cœur de l'entreprise, et puis les différents défis à mener. Donc voilà, le Eureka, hein, Eureka, je suis à la bonne place et je fais ce pourquoi je suis fait, fait aller très loin une entreprise ou une équipe.
Eh ben merci Kitry Didier d'être venu nous présenter donc ce magnifique outil. Voilà, charge à chacun après de se prendre en main ou de faire appel à vos services et à ceux de d'autres pour l'appliquer à sa vie personnelle ou à la vie de l'organisation pour laquelle il travaille. Un grand merci à vous.
Merci.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.